À toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis en présence de Bruno Latour. Bruno Latour, bonjour. Vous êtes sociologue, anthropologue, philosophe, spécialiste des sciences, mais pas que des sciences, aussi du droit, de la politique, de la religion. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui ont été traduits dans le monde entier. Aujourd'hui, je vous reçois pour deux de vos derniers livres. D'abord, « Où suis-je ? Leçon du confinement à usage des terrestres » qui vient de paraître à la Découverte tout récemment. Et puis pour préparer cet entretien, j'ai voulu lire aussi, relire Où atterrir, comment s'orienter en politique, que vous aviez publié il y a de ça 3 ans. C'est un livre qui a été écrit, si je m'en fie à son contenu, pas longtemps après l'élection de Donald Trump, puisque vous réfléchissiez à cette nouvelle configuration politique et géopolitique dans laquelle nous étions en 2017. Et vous dressiez notamment un lien important entre deux phénomènes qu'on pense parfois de façon un peu trop séparée, à savoir d'un côté le dérèglement climatique et de l'autre l'explosion des inégalités. Et dans ce dernier livre, ce nouveau livre, donc « Où suis-je, leçon du confinement à l'usage des terrestres », il s'agit à nouveau de réfléchir sur la situation présente, mais en l'occurrence les choses avancent très vite ces dernières années. Et donc dans ce livre, voilà, vous constatez, en tout cas c'est la thèse que vous défendez, qu'il n'y aura pas de retour au monde d'avant, qu'on a basculé désormais dans une nouvelle configuration et que la question du coup qui se pose à nous, c'est de savoir comment s'orienter, comment se débrouiller au mieux dans ce nouveau monde, sachant que la crise sanitaire qu'on vient de traverser, qu'on est en train de traverser, n'est peut-être qu'un avant-goût, qu'une répétition générale, vous dites, par rapport à la crise climatique qui, elle, se dresse devant nous. Alors, avant de rentrer dans le contenu de vos ouvrages, je voulais vous poser une ou deux petites questions, peut-être d'abord sur votre positionnement. J'ai dit que vous étiez sociologue, anthropologue, philosophe. Je me demandais comment est-ce que vous vous définissez en termes notamment d'appartenance disciplinaire. Vous avez commencé, me semble-t-il, votre carrière en tant que philosophe, agrégé, même docteur en philosophie. Mais ensuite, l'immensité, enfin la plupart de vos travaux sont des travaux avec des terrains, des enquêtes au sein de tout un tas d'instances, je ne vais pas les lister. Donc voilà, je me demandais un peu comment vous concevez comme ça votre inscription dans les sciences sociales et la philosophie.
Je crois quand même que ma discipline d'affiliation personnelle, c'est la philosophie. Mais en même temps, j'ai enseigné toute ma carrière en sociologie, même si pour les sociologues, ma sociologie est un peu étrange. Et mes amis les plus proches, du point de vue des méthodes et des préoccupations, sont des anthropologues. Donc... voilà, je me sens philosophe, mais je n'ai jamais vraiment travaillé avec de vrais philosophes professionnels. Et je suis entre les disciplines parce que ce n'est pas les disciplines qui me limitent, disons, et ce n'est pas non plus celles qui m'intéressent beaucoup. Je n'ai pas vraiment d'affiliation disciplinaire. En fait, mon vrai domaine, c'est science studies, qui disons, l'analyse, la sociologie des sciences. Si par domaine d'appartenance, c'est ceux avec qui j'ai fait ma carrière et j'ai fait la plus grosse partie de mes travaux, ça serait la sociologie des sciences, disons.
Ces découpages disciplinaires, c'est des découpages que vous jugez peut-être un peu sclérosants pour la pensée, un peu néfastes
ou c'est non, même ils pas sont utiles pour les carrières, pour organiser les HDR, pour gérer les flux, disons, d'étudiants, de doctorants, etc. Mais quand on travaille, on les traverse très gentiment. Tandis que la création, le développement, le suivi d'un domaine dans lequel mais qui n'est jamais très grand, qui est, disons, le domaine vraiment dans lequel on a ses collègues, ça, c'est toujours très, très important dans toutes les disciplines, mais c'est la sociologie des sciences qui est elle-même un mélange de tas d'autres disciplines. Donc, par contre, ça, c'est certainement le très important pour des jeunes chercheurs d'avoir un sous-domaine, disons, d'appartenance.
Mais ce n'est pas coutumier, quand même, quand on est philosophe, on travaille plutôt, en général, soit sur des auteurs qui sont rentrés un peu dans le panthéon de la philosophie, soit éventuellement sur des concepts, mais d'aller se coltiner comme ça des terrains, comme vous l'avez fait au sein notamment d'un laboratoire scientifique au début.
Non,
est-ce que vous vous souvenez un peu ce qui vous a poussé à...
En France, la tradition, jusqu'à l'année moi-même où j'ai passé l'agrégation, l'anthropologie n'était... n'existait pas comme discipline. Et c'était toujours par la philo, c'est vrai de Lévi-Strauss, c'est vrai de Descola, c'est tout vrai de fait. Tous mes collègues anthropologues ont tous passé, presque tous passé par la philo. C'est pas du tout... Ça n'est pas bizarre du tout, non. Le fait de passer... Il se trouve que, par contre, je suis resté sur des questions philosophiques, mais par des méthodes anthropologiques. Donc, je crois au terrain. C'est aussi... Peut-être parce que je ne suis pas très cultivé ou parce que je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai besoin d'un terrain. Et j'ai toujours travaillé, même encore maintenant, à mon âge, à partir de terrain pour chacun des domaines, des sujets, disons, de préoccupation que j'ai eu.
Pour confronter vos hypothèses, il y a besoin de... Ouais.
Oui, c'est aussi parce que c'est la figure quand même de l'anthropologie comme méthode... En ce moment, vu le désastre général, est quand même assez puissant. Donc, cette figure, comme type de travail, d'attention, reste pour moi une façon justement d'être attentif. Parce que sans ça, dans les disciplines, on se dispute beaucoup sur des sujets justement qui ne sont pas forcément très intéressants.
Je voulais vous questionner aussi, toujours en termes de positionnement, sur la façon dont vous envisagez les rapports entre. Recherche et militantisme, entre sciences sociales et politiques d'un côté. Je vous pose la question parce que souvent, moi, pendant mes années d'études, voilà, Bruno Latour, sociologue des sciences, et puis de plus en plus, on vous présente Bruno Latour, penseur de l'écologie. Et puis même en lisant du coup ces deux derniers ouvrages, on sent par rapport à tous vos travaux antérieurs, qui sont voilà, bon, des travaux... qu'on renouvelait beaucoup de choses, mais qui sont aussi, d'un certain point de vue, tout à fait standards en termes de méthodes d'enquête en anthropologie. Là, les deux derniers ouvrages, il y a une dimension philosophique beaucoup plus prononcée, mais il y a une dimension politique aussi, tout simplement, beaucoup plus prononcée. Donc, comment est-ce que vous les envisagez, les rapports entre recherche et politique ?
Je suis très content d'avoir des œuvres standards. Ça me fait en fait, je me suis toujours intéressé à la politique, mais je la voyais dans des endroits où on ne la voyait pas, c'est-à-dire en partie dans les sciences, d'abord. Dans les techniques, dans l'argumentation, dans le droit. Enfin, en fait, j'ai toujours travaillé sur la politique, sur les asymétries, disons. Mais peut-être que les gens ne le reconnaissaient pas parce que ce n'était pas sur la politique au sens, disons, de la sphère proprement, celle des politistes, justement. Et donc, c'est vrai que là, l'écologie m'a intéressé à la fois pour les questions, disons, complètement, disons, spéculatives, qui posent plein de problèmes philosophiques, mais aussi, évidemment, sur des problèmes d'activisme, disons. Je fais la différence entre militant et activiste. Mais aussi sur des questions d'autres médiums. Donc j'ai fait des expositions, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait des conférences-spectacles, j'ai fait des tas de choses différentes, parce que la question, pour arriver à rendre politique une question nouvelle, il faut se donner du mal, parce qu'on n'a pas forcément le répertoire qui permet de saisir l'originalité de la question écologique, parce que c'est aussi une transformation existentielle, en quelque sorte. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé de multiplier les formes d'accroche, sans faire beaucoup de différence, c'est vrai, entre la conférence... je viens de faire un gros livre sur la zone critique avec des collègues scientifiques. Et là, c'est plutôt, disons, de la science... enfin, ma partie à moi est très petite, mais... Je mets en scène des scientifiques, disons. Parce que pour arriver à simplement formuler en termes politiques la question de l'écologie, il faut aller un peu partout, justement. Ce que, d'après moi, les écologistes n'ont pas assez fait. Ils se sont trop centrés sur avec l'espoir que du moment que la situation était très grave, en gros, tout le monde allait bouger. Et on a vu que ce n'était pas du tout le cas. Donc,
c'est pas le cas. Il ne suffit pas que la température augmente et qu'il y ait de plus en plus...
Oui, elle augmente, mais la température augmente, mais pas forcément celle des émotions politiques associées à cette température. Sauf chez des gens qui sont justement très touchés. Donc ce qui est intéressant, c'est comment les gens sont touchés par ces questions. Et il faut reconnaître que ça prend du temps. C'est vraiment presque tête de pipe par tête de pipe que les gens, depuis maintenant une trentaine d'années, mais de façon un peu plus accélérée depuis, je crois, 4 ou 5 ans, chacun se transforme légèrement et s'aperçoit que c'est une question essentielle. Mais quelle résistance il a fallu, pour chacun de nous, hein, pas simplement les autres, moi aussi, quelle résistance il a fallu, disons, passer pour... Il y a quelque chose d'existentiel dans la question, puisque c'est une question de subsistance qu'on n'avait pas encore... disons, rentrer dans la définition de la politique. Donc arriver à apprendre à faire de la politique avec des éléments qui sont des éléments qui autrefois étaient des éléments de ressources ou des éléments naturels ou des éléments du background général, c'est très difficile. On voit que c'est angoissant d'abord et on est très démunis.
Et grâce à quoi est-ce que petit à petit un nombre croissant de personnes s'intéresse à la question écologique? C'est quoi les vecteurs de sensibilisation qui permettent justement...
Ben, il y a certainement les sciences, mais les sciences ont joué un rôle absolument considérable.
Quand on voit le GIEC, quand même, aujourd'hui, les rapports du GIEC, ils ont toujours un écho. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont un écho.
C'est dur aussi pour les scientifiques de ces disciplines-là. Ils sont eux-mêmes très saisis par l'intensité des controverses. Ils sont obligés d'apercevoir que l'ancienne façon de présenter la science ne marche pas très bien, que la dissémination des connaissances ne suffit pas, et qu'il y a des... Un climato-scepticisme a été une vraie bataille politique extrêmement intense. Il y a évidemment la multitude des militants et des activistes qui travaillent sur ces questions. Il y a la très importante pression des générations, avec la différence de génération, le sentiment même que c'est un problème de génération, de comprendre ou de ne pas comprendre ce qui se passe. Il y a, disons, la découverte de milliers d'entreprises, d'artisans, d'agriculteurs, de la transformation quand même qui devient beaucoup plus visible. Donc il y a... C'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a à la fois le sentiment, on peut dire les deux choses qui sont exactement vraies. C'est-à-dire, d'un côté, tout le monde a déjà basculé dans la compréhension du monde d'après, pour prendre cette phrase, et en même temps, la représentation, l'offre politique, disons, qui correspond à ce changement radical n'est toujours pas là. On reste encore dans un essai de sauver les meubles, disons.
Les partis écologistes aujourd'hui sont pas pour vous à la hauteur du défi, de l'enjeu ?
Ils ont pas mal de travail à faire pour être au niveau, disons, de ce qu'ont été les grands partis socialistes, communistes du siècle précédent. Si on compare l'énorme travail intellectuel, l'énorme travail de reprise de l'histoire, reprise de la philosophie, reprise des sciences, des socialismes au XIXe siècle, avec le travail effectué par les écologistes, c'est même s'il commence. En tout cas, il n'est pas tellement dans les partis, il est plutôt dans la vaste multitude de gens qui s'intéressent. Faire un parti avec les écologistes, c'est pas encore gagné. Oui. Parce que, pour une raison simple aussi, c'est que c'est la beauté de la question des écologistes, c'est que c'est en grande dispersion, parce qu'il s'agit de sortir du cadre de ce qu'a été la politique fondée sur la notion de production. Donc il faut aller dans toutes les directions. Du coup, il y a une dispersion qui, évidemment, pour arriver à construire un mouvement politique, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est une énorme valeur. On dit toujours les écologistes se disputent sur tout. Et on reprend souvent la blague de la question de Staline. Les écologistes, combien de divisions ? Et combien de divisions ? Ça, ils ont beaucoup de divisions. Mais c'est un avantage. Parce que potentiellement, il s'agit d'attaquer sur tous les sujets possibles et de s'occuper aussi bien des questions de ZAD, de ferme, d'organisation d'Internet. Il s'agit d'aller partout. Mais évidemment, dans la tradition, disons, de ce que c'est qu'un parti politique, l'exigence de rassemblement et de convergence, disons, est beaucoup plus difficile à faire. Et en même temps, il faut faire les deux, disons. Donc ça demande un énorme travail intellectuel, un travail d'analyse, un travail de... disons, pour parler dans des termes gramsciens, d'hégémonie culturelle, il faut s'en donner les moyens. Et si vous posez la question où est le travail d'influence et de discernement de toutes les positions reconnaissantes des alliés et des ennemis de l'écologie qui ressemblerait à ce qu'a été dans le socialisme ou ce que l'énorme travail qu'ont fait les libéraux et les néolibéraux et les illibéraux pour construire leur propre hégémonie culturelle, on se dit, les gars, il faudrait peut-être vous mettre à bosser. Et c'est pas simplement électoralement, c'est aussi reconstruire une offre, et qui est aussi, alors non, je suis un peu biaisé là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi une offre intellectuelle. Vous êtes politiste, vous le savez bien, il n'y a pas de monter en puissance d'un mouvement politique qui n'ait pas aussi été accompagné par un énorme travail culturel, disons, dans tous les sens du terme. Et je suis... Pour le moment, on est un peu en retard, disons, sur ces questions. Il faut rattraper.
Comment vous concevez le lien entre les luttes écologiques et les luttes sociales? Parce que c'est ça aussi l'une des. Enfin, on parle de l'écologie, il y a pas autant d'écologie qu'il y a d'écologistes, mais il y a beaucoup de familles, de courants dans l'écologie. Et il y en a, mais pas tous. Enfin, je veux dire, il y a une écologie aussi du capital, il y a une écologie des grandes entreprises, il y a du greenwashing. Et puis, il y a une écologie qui se veut plus populaire, en tout cas, qui essaye de lier les questions climatiques à celles de justice sociale. Il me semble que c'est l'une de vos préoccupations, je l'ai lu à plusieurs reprises. Vous citez même le pape François sur cette question-là. Qu'est-ce qui coince d'après vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore trop souvent, même si quand même j'ai le sentiment que ça progresse, mais qu'on a encore
oui,
du mal comme ça à
oui.
connecter les deux?
Ça progresse, mais c'est parce que les classes telles qu'on les imaginait étaient des classes qui étaient liées à la notion de production. Or, c'est la question de production qui est en question. Donc, évidemment, c'est le heurt continuel entre une définition classique, disons, des intérêts, qu'on soit libéral ou qu'on soit socialiste, c'est quand même toujours autour de la production et de la distribution ensuite des biens de cette production que se posait la question, quand même, en gros, presque jusqu'à la fin du XXe siècle. Or là, il s'agit de poser ces questions, mais aussi de s'apercevoir que derrière les questions de production, il y a des questions. On peut le lire chez Marx déjà, de reproduction d'ensemble de toutes ces capacités, disons. Or, donc, en un certain sens, je travaille pas mal là-dessus avec un jeune Danois sociologue et politiste, les classes elles ont toujours été géosociales, si on veut. Elles ont toujours considéré la question de la production et de la reproduction liées. C'est le très important livre de Charbonnier sur la question d'abondance et de la liberté. Mais quand même, la reproduction était soumise à la question de la production. Et toutes les classes étaient définies là-dessus. Donc tout le monde comprend bien ça. Maintenant, la question, et c'est pour ça que la dispersion des écologistes est tellement importante, c'est aussi que la question de la production est le problème. Donc ça ne sert à rien de continuer à définir les classes uniquement sur la question de la production. Il faut aussi les définir sur les questions que ce sont des classes géosociales. À chaque fois, c'est des questions d'occupation de la terre, c'est des questions d'envahissement par le CO2 d'un autre pays, c'est le fait que les semences ne peuvent pas être distribuées, et la capacité d'apprentissage des nouveaux fronts de classe correspondant à ces luttes géosociales est difficile, parce que dès qu'on isole la classe sociale en termes de production, on perd la partie qui est justement celle que, disons, la question écologique amène au premier plan. Donc il y a un énorme retravail des notions de classe, ce que j'appelle classe géosociale.
Est-ce que vous cherchez à reformuler, à compléter la lutte des classes la lutte des classes serait complexifiée par l'émergence de la question écologique, ou est-ce qu'on est dans un au-delà de la lutte des classes? C'est un
non,
schéma qui est périmé.
Au-delà, il faut être marxiste élémentaire. L'histoire est quand même un peu la lutte des classes.
Mais et elle le reste, non?
Enfin, elle le reste forcément. Elle reste forcément dans la mesure. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans toute cette affaire de Covid, de monde d'après, etc., pour le moment, les forces qui sont en présence sont pour une espèce de reprise ultime et acharnée de la production. Donc les puissances qu'il faut opposer, surtout si vous rajoutez l'importance de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, etc., pour le moment, la construction de classes géosociales, l'ennemi principal, c'est à la fois l'illibéralisme, qui est un peu partout quand même, la réaction d'ailleurs à la fin de la modernisation, et de l'autre côté, l'énorme envie, appétit, tsunami, on pourrait dire, du retour de la production encore à une échelle encore plus grande. Donc l'idée que le travail à faire pour lutter contre la notion même de production, et donc de dire non, c'est plus la question en termes de production, c'est la question géosociale, ce qui veut dire redéfinir tous les intérêts, y compris les intérêts de classe sociale, demande une capacité de discernement et d'alliance, disons, de conviction qui est très compliquée. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais il est, disons, peu travaillé par les partis écologistes, parce qu'il repose sur une idée un peu, disons, pédagogique de l'avancée inévitable de la question écologique. Mais quand on voit la force du productivisme démultipliés qui nous arrivent dessus à la fin, avec la fin du Covid, il faut vraiment un esprit bien optimiste pour penser que le sens de l'histoire va dans la direction de l'écologie.
Mais
le sens de l'histoire, il va nulle part si on lui donne pas le sens.
Le sens dépendra de... Ce sera celui qu'on lui donnera.
Absolument.
Ce que vous écrivez, j'ai relevé dans le dernier livre, là, où suis-je, que le Covid a ébranlé la toute-puissance de l'économie. Mais là, j'entendais que vous disiez presque l'inverse, en fait. Enfin, finalement...
Non, il l'a ébranlé pour ceux qui, justement, s'aperçoivent que l'économie ne peut plus définir les relations. Mais il y a des ennemis de l'autre côté qui disent...
Ah oui,
on n'est pas un problème d'économie, c'est que massivement, maintenant... La question de la production se pose, et comme elle est la tension sur toutes les ressources, que ce soit les terres rares, les terres elles-mêmes, l'air, etc., l'eau, les tensions sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. On voit bien que économiser ces questions, c'est ce que font les ennemis, en quelque sorte. Mmh. Donc maintenant, économie n'est plus le cadre qui définit les classes. Amis et ennemis, comme c'était quand même le cas, et dans le cas du libéralisme, et dans le cas du socialisme. Mais maintenant, le front ennemi, c'est vous croyez à l'économie, vous n'y croyez pas. Mmh. Donc la déséconomisation ou l'économisation, c'est maintenant, d'après moi, un front de lutte. On le voit très bien dans des détails, que ce soit, par exemple, la question des semences paysannes, arriver à résister à la mainmise sur la question des semences pour ne pas re-rentrer dans une définition de la production simplement étendue aux questions de nature, ça demande un travail, une énergie, un militantisme, une capacité de réaction extrême. Et ça, c'est vrai de tous les sujets. Vous prenez la question de la 5G, vous prenez les questions tout simplement du climat, évidemment. Donc il y a une espèce de cartographie générale des fronts de lutte qui font que... cette cartographie ne peut pas être définie par l'économie. C'est pas la relation économique qui peut définir cette affaire. C'est en ce sens qu'on est quand même un peu sorti, disons, de l'horizon marxiste-libéral, disons, qui nous a occupés pendant le XXe siècle, qui reste quand même à l'intérieur de la notion de production.
Et on est sorti du clivage gauche-droite ou pas? Parce que vous revenez aussi sur cette question-là.
Oui, on est à la fois sorti. Si le clivage gauche-droite...
En quel sens? Parce qu'on entend beaucoup, il y a énormément de discours là-dessus, sur l'obsolescence du clivage gauche-droite. Et à un moment, j'ai senti que la question vous intéressait, mais voilà, quel est votre point de vue à cet égard?
Si on dit... On prend les définitions classiques de gauche-droite et on essaie de trouver un truc à l'intermédiaire qui n'est ni l'une ni l'autre, c'est évidemment ridicule. Mais si on dit gauche-droite est définie quand même massivement par la question des luttes de classe fondées sur la notion de production, alors ça, il faut en sortir, parce que la notion de production n'est plus celle qui nous intéresse. Donc le virage écologique, disons, vers le terrestre, ce n'est pas un virage ni vers la gauche ni vers la droite. Ça, c'est clair. Maintenant, si on entend gauche-droite par progressiste versus réactionnaire, il y a bien un progressisme et une version réactionnaire. Mais il faut le définir. Qui est progressiste et qui est réactionnaire? Maintenant, la question, c'est si vous continuez à vous appuyer sur la notion de production pour définir les classes, ça, c'est réactionnaire. Si vous comprenez que maintenant, il faut sortir de la production et redéfinir des attitudes vis-à-vis de ce que j'appelle les pratiques d'engendrement nécessaires à la reproduction, ça, c'est progressiste. Donc, si on m'appelle gauche-droite, en gros, de façon très, très générale, progression réactionnaire, Ça, il faut le garder. De toute façon, les vecteurs, l'imaginaire, les passions politiques restent associés à ce vecteur, à cette flèche. Mais le contenu de ce qu'on appelle réactionnaire et progressiste change à toute vitesse en ce moment. Si vous prenez,
c'est-à-dire, par exemple,
si vous prenez les gens, l'agriculture moderne, c'est quoi le mot agriculture moderne? C'est réactionnaire ou c'est progressiste? Maintenant, la plupart des gens que je connais dans ces questions diraient c'est réactionnaire. Vouloir moderniser l'agriculture française en particulier, c'est précisément être du côté de la réaction. Et être du côté de la progression, c'est quelque chose du côté... Moi, j'appelle ça le terrestre. Ça veut dire une multitude de luttes très dispersées qui portent sur des tas d'objets dont certains ont l'air d'ailleurs réactionnaires à l'ancienne, avec des alliances un peu parfois compliquées avec de vrais réactionnaires à l'ancienne. Et donc c'est pour ça que l'organisation du discernement de toutes ces nuances... entre les anciens réactionnaires et les nouveaux réactionnaires, les anciens progressistes et les nouveaux progressistes, demande un énorme travail de description, ça c'est ma marotte, de redescription, disons, des territoires vécus par les gens, parce qu'on peut pas le... C'est vraiment sujet par sujet, préoccupation par sujet, par préoccupation qu'on peut faire ce...
Moi, j'ai le sentiment que réactionnaire, c'est pas tant aujourd'hui tel que c'est utilisé par la grande majorité des gens dans le discours ordinaire. C'est pas une question d'agriculture. C'est les réactionnaires, c'est ceux qui veulent pas accorder le mariage pour tous, qui sont contre les droits des femmes, contre les droits des minorités sexuelles. Et en ce sens-là, c'est assez simple de faire la part des choses entre les réactionnaires et les progressistes. Et
du coup, c'est un des vecteurs sur les mœurs, mais c'est pas là ce qui m'intéresse. Ce qu'on discute, c'est le vecteur sur la production.
Mais est-ce que c'est pas celui sur les mœurs qui reste quand même principal aujourd'hui quand on parle... Oui. Si on parle de libéraux et de socialistes, on est sur des questions de production. Si on parle de réactionnaires et de progressistes, on est plutôt sur la question des mœurs que sur...
Alors, parlons plutôt du premier, parce que les mœurs, c'est des choses qui passent, tandis que la question de production, c'est celle qui organise toute l'histoire depuis deux siècles. Donc on a intérêt à se centrer sur la question que vous posiez, c'est quel est le rapport entre rapport de, disons, de classe sociale et question écologique, c'est celle que j'essaie de traiter. De ce point de vue-là, la question des mœurs ne se pose pas directement. Par contre, la question de la production se pose. Sur les questions de mœurs, finalement, tout le monde est un peu libéral en un certain sens. C'est pas vraiment là maintenant. Sur les questions écologiques, c'est pas central. La question de savoir si vous arrivez à reproduire les conditions qui vous permettent d'exister sur Terre n'est pas liée au fait que vous êtes pour ou contre le mariage pour tous, des choses comme ça. C'est pas du tout les mêmes vecteurs. Culturellement, du point de vue des statistiques, vous allez peut-être associer un baba cool avec une certaine position sur le et inversement. Mais c'est pas très significatif. Ce qui est significatif, c'est quel est le rapport à la production. Est-ce que vous luttez, d'une certaine façon, ou pas, contre la reprise massive, générale, globale, de ce qui va nous tomber dessus quand la production reprend?
Vous pensez
quels sont les outils que vous avez pour dire,
Vous pensez qu'il faut sortir du capitalisme pour faire face, pour éviter justement la catastrophe qui se dresse devant nous?
J'utilise pas du tout la notion de capitalisme.
Non, justement, c'est pour ça.
Je ne crois pas que le mot capitalisme serve à grand chose, sinon à faire semblant de croire qu'on désigne quelque chose. Il y a des organisations de marché qui sont très largement construites par les États. C'est les États qui construisent le capitalisme. Il n'y a pas de capitalisme, oui. Ils sont indépendants dans des États. Donc la question a toujours été la même pour les classes qui prétendent, rivaliser pour la lutte du pouvoir, c'est d'occuper l'État. C'est pas de détruire le capitalisme, c'est d'occuper les États qui construisent le capitalisme. Le capitalisme, c'est la conséquence d'un
Donc décisions. L'enjeu, c'est de l'orienter d'une manière qui reste compatible avec les limites de la Terre. C'est pas d'en sortir.
Il faut supposer que les États qui ont considérablement aidé à construire le capitalisme, disons, et on peut même pas les distinguer, peut, en un certain sens, s'il est... aider au doute général sur la production. On ne voit pas comment ce qui a permis la construction du capitalisme pourrait, sans qu'on s'en empare, sans qu'on on le tienne, avoir un effet quelconque sur la déséconomisation. Capitaliste, c'est un terme que j'ai toujours évité, parce que il fait comme s'il y avait un énorme bloc et qu'il suffirait de le renverser. Or, le système, ce qu'on appelle le système capitaliste, c'est des milliards de décisions très largement prises par les États et par les entreprises et par les classes dirigeantes. Et ces trucs-là, il faut les défaire point par point si on veut arriver à changer quelque chose. Parce que, en plus, c'est une grosse différence entre les anciennes traditions de gauche, qu'il ne faut pas oublier, qui est un des éléments importants pour moi dans le deuxième livre, c'est que ce n'est pas un élément de renversement, puisque l'événement dont nous sortons, qui est l'événement de l'Anthropocène, il est derrière nous. Donc on n'est pas dans une situation que les politistes ont bien étudié. Concentrons l'action sur un front vers un événement majeur de renversement, et après on passe à autre chose. Mmh. On est passé déjà à autre chose.
Vous croyez pas, vous, à la nécessité de, la nécessité d'un changement quand même à un moment donné radical pour l'ensemble de la société.
Si, il est radical, mais il n'est pas ordonné temporellement comme était ordonné, le rêve moderniste, aussi bien libéral que révolutionnaire au XXe siècle. Ça, c'est un vrai problème pour les valeurs et les affects de la gauche. Donc, c'était l'idée d'un front de modernisation qui allait, et une action, concentrée, qui allait ensuite basculer dans autre chose.
C'est révolu.
Bah, c'est-à-dire que
on l'a fait.
Le capitalisme l'a fait pour
nous. La révolution bourgeoise, libérale, on l'a faite, mais la révolution socialiste, anticapitaliste, on ne l'a pas faite.
Non, mais le capitalisme l'a fait pour nous, c'est l'anthropocène. C'est-à-dire les conditions d'existence ont été révolutionnées et transformées dans les années 70, 80, 90. Donc le problème, c'est plutôt d'enfouir la production d'enfouir la production dans ces conditions de reproduction. C'est ça, la révolution. Ça, c'est radical, effectivement. Mais le sens historique n'est pas le même. Et c'est important parce que c'est une vraie gêne pour les gens de gauche il y a une étrave qui avance, comme ça, et ensuite, on passe à autre chose. Là, on est passé à autre chose, et il faut au contraire revenir. C'est le schème révolutionnaire, ne fonctionne pas. Et c'est très difficile pour les gens qui ont des traditions de cette espèce, qui soient libéraux. D'ailleurs, c'est aucune différence, parce que les libéraux et les marxistes ont toujours partagé ce même sens de l'histoire. Disons. Alors que là, c'est un sens de l'histoire qui est un sens de réparation, d'enfouissement, de critiques multiples, de dispersion. Vous voyez, aucune de ces modèles de la question de sortir de la production ne rentre dans le... Ils ont des habitudes.
J'ai le sentiment, mais vous, enfin, c'est pas une critique, c'est plus une question de compréhension. Mais vous me direz si je me trompe. Mais parce que en vous écoutant, puis c'était le sentiment que j'avais aussi en vous lisant. J'ai le sentiment que vous gommez pas, mais en tout cas vous réduisez comme ça la distance entre libéraux et marxistes. Vous venez de dire, mais gauche et droite aussi en un certain sens. Alors que pour moi, c'est des distinctions qui restent cardinales et d'une façon toute simple en fait. C'est que la gauche, c'est se battre pour l'égalité. Et la droite ou les libéraux, c'est privilégier les inégalités à l'égalité. Et en ce sens-là, ça conserve, enfin, c'est un clivage qui conserve toute son actualité. Alors j'entends ce que vous dites sur le fait que les libéraux comme les marxistes, la gauche comme la droite, sont pris comme ça dans l'économie, sont pris prisonniers en fait dans une vision productiviste des choses, mais... Si on revient à la façon dont je viens de les définir, d'un côté, il y a ceux qui se battent pour l'égalité, et de l'autre, ceux auxquels un ordre inégalitaire convient tout à fait.
Ça conserve sa pertinence pour beaucoup de... L'égalité de qui ?
L'égalité, toutes sortes d'égalités, des hommes et des femmes, des Français et des étrangers.
Oui, cette question-là, elle est maintenant intégrée, embedded, enfouie, enclos dans une autre question qui la contient, qui est celle de l'égalité des conditions de reproduction qui permettent à ces hommes et à ces femmes et à ces races et à ces migrants et à ces gens d'exister. Donc maintenant, la question devient...
Mais justement, on n'est pas tous égaux, pardon, par rapport à ces conditions de reproduction. Enfin, c'est quoi ces conditions de reproduction ?
Justement, non, on est envahi par les autres. Donc c'est pour ça que c'est des questions de...
Quels autres ?
Sens, la notion de classe, de lutte de classe et d'inégalité ou de domination, elle est au contraire... Elle s'est multipliée. Vous prenez chacune des questions qui sont des questions, disons, écologiques, que ça soit la façon dont vous mangez de la viande... ou la question dont vous achetez une voiture, la façon dont vous vous habillez ou vous occupez une maison, toutes les questions qui ont été mises en avant d'ailleurs par le mouvement des Gilets jaunes sont toutes des questions géopolitiques. Mmh. Et aussi des questions qui posent des questions d'inégalité dans la production, la production et la reproduction du monde. Donc rien des anciens combats n'est suspendu ou gommé ou annihilé. Simplement, à chacun de ces combats s'ajoute un autre combat. Avec des fronts forcément différents et des alliances forcément différentes, sur, mais quelles sont les conditions de reproduction qu'il va falloir mettre en place pour que le monde dans lequel ces combats se menaient continue. Donc c'est là où il y a une innovation des écologistes, disons, par rapport à l'offre qui a été l'offre des socialismes ou des libéraux dans l'histoire du XXe siècle. Mmh. Simplement, c'est compliqué pour les écologistes de trouver leurs alliés, sachant que... il faut faire d'abord tout ce travail de discernement. Et vos questions montrent pourquoi c'est difficile, parce que les mouvements qui étaient des mouvements inspirés, disons, par l'esprit des luttes sociales, de même que le mouvement des femmes a mis très longtemps à rentrer dans le mouvement ouvrier communiste classique, de même que le mouvement des migrants ou des coloniales a mis très longtemps à rentrer, etc., le mouvement de la question écologique, qui pourtant pose la même question, c'est-à-dire combien d'êtres sont nécessaires à ce que vous, les libéraux, vous appelez la production, les ouvriers, les femmes, les migrants, les colonies, les esclaves, et les plantes, l'air, etc. Finalement, il y a continuité entre tous ces mouvements. Mais on continue à maintenir une différence. Autrefois, les communistes disaient « les ouvriers, c'est important, les femmes, pas trop ». Ensuite, on a mis les femmes. Ensuite, vous voyez ce que je veux dire ? L'idée même de distinguer les luttes sociales avec les luttes écologiques continue à être dans la tête des gens. Donc tant qu'on a cette distinction, l'orientation de l'action et l'orientation de la réponse à la domination est très difficile à faire.
Mais l'ennemi, enfin, puisque vous avez parlé de combat, l'ennemi ou l'adversaire, disons plutôt, pour les luttes sociales comme pour les luttes écologiques,
c'est le même.
C'est le même, oui, on est d'accord.
Oui, c'est à peu près le même.
Parce que c'est les mêmes multinationales qui exploitent les travailleurs et qui en même temps commettent le plus d'extraction.
Oui, ces multinationales, il ne faut jamais oublier, elles sont aussi favorisées par les États qui, eux, sont un peu moins loin et sur lesquels on peut agir un peu plus.
Qui sont juste derrière.
Donc c'est là où la notion de capitalisme est toujours gênante parce qu'elle transforme une lutte qui est possible à niveau de chaque nation et de chaque sous-nation, région, etc., en quelque chose qui est tellement global et systématique que, de toute façon, on est devant comme les bras vous en tombent. Tandis que chacun de ces sujets, c'est ça qui est intéressant dans la façon écologique de rentrer dans ces sujets, c'est que ça commence avec un problème d'occupation d'une, comme on l'a vu avec les gilets jaunes. Comment je fais, moi, si j'ai pas de voiture pour aller au centre-ville ? Je veux dire, c'est des questions simples. Mmh. Et de fil en aiguille, ces questions reconstituent à la fois des fronts d'alliance, parce que pouvoir s'intéresser au transport public, c'est pas simplement les gilets jaunes que ça intéresse aussi plein d'autres gens. Donc chaque sujet est différent, ça c'est aussi un autre problème. Les alliances, il y a plein d'alliances possibles, plein de marges de manœuvre. Et n'oublions pas que, ça c'est le problème du rapport à l'histoire, la grande transformation révolutionnaire, elle a eu lieu dans le siècle précédent, au moment où on est passé, disons, d'une empreinte qui en 1945 était encore très faible sur la Terre, à une empreinte qui est celle désignée par la notion d'anthropocène. Donc on est quand même en situation plus de réparation et de transformation et d'enfouissement de la question de la nature, de la production, pardon, pour le dire de façon simple. Et donc il faut s'intéresser à ces problèmes d'orientation de l'action, parce que ça donne une autre, consistance, disons, aux luttes. Et c'est le problème, le fait que chaque question soit géopolitique, c'est très compliqué à comprendre dans la perspective classique, parce qu'avant, il y avait une distinction entre la politique intérieure et la politique extérieure. Mais maintenant, vous vous intéressez au soja, vous dites je mange du soja ou j'arrête de manger du Nutella, vous faites de la politique, la géopolitique. Vous fermez, vous ouvrez des marchés pour des boîtes, etc. Donc tout ça doit être travaillé par les...
Alors, les gilets jaunes, comme vous en parliez, on peut prendre cet exemple. Bon, c'est pas un mouvement qui est né sur des revendications écologiques, mais les gilets jaunes, pardon, les gilets jaunes.
Bah, si, ils ont commencé sur un.
Justement, c'est si on
sur
prend
une question de taxation de l'État.
L'ISF rétablit l'ISF.
Qui se payait résoudre un problème en douce, un problème de taxation du pétrole, de l'essence, en faisant payer sans réfléchir trois minutes aux conséquences. En faisant payer les gens. Donc, exactement le cas parfait de superposition des inégalités et des inégalités classiques, disons, avec la réparation du problème géosocial. Qu'est-ce qu'on fait du carbone et comment on le fait payer ? Et paf, on l'a fait payer. Enfin, on essayait de le faire payer à des gens qui étaient déjà défavorisés. Donc, Le gilet jaune, c'est quand même très intéressant.
Vous avez eu de la sympathie, vous, pour leurs revendications sur la restauration de l'ISF, le référendum d'initiative citoyenne? C'est des choses que...
Non, vous... parce que... j'ai beaucoup de sympathie pour le mouvement, mais justement, ça m'a beaucoup intéressé de voir la difficulté d'extraire de ce mouvement, qui a quand même été d'une énorme importance en termes de mobilisation, quelque chose qui s'adressait à la question géopolitique, qui était la question qui me paraissait claire dans l'étincelle qui avait déclenché cette affaire. Ceci dit, il y a eu plein de... Ça a été très intéressant, mais moi, je m'intéressais à la même période à ce qui est au sujet de Ouattara, c'est-à-dire précisément les cahiers de doléances. Et on voyait bien que la question des cahiers de doléances, qu'est-ce qu'il a limité dans l'expression des Gilets jaunes, c'était la description de la situation. Et que c'est ça qui manquait. C'est précisément que la capacité d'énoncer des doléances dépende, avoir des intérêts, c'est pouvoir analyser le monde dans lequel vous êtes. Si vous ne pouvez pas décrire le monde dans lequel vous êtes, c'est très difficile d'avoir des intérêts.
Mais ils l'ont fait de façon assez lucide. Ils ont décrit de façon assez lucide, en tout cas, me semble-t-il.
Mais on a fini sur le référendum. Je veux dire, s'il y a un truc qui, probablement, une espèce de machin, comme, c'est exactement là, c'est symétrique. De l'obsession de Macron, croire qu'on va résoudre la question avec une inscription dans le référendum, faire un référendum sur l'inscription dans la Constitution. C'est exactement, c'est vraiment la pyramide à l'envers. C'est-à-dire on met ce qui devrait être la conclusion d'un immense travail de reprise de toutes les questions géopolitiques ou géosociales, pour prendre mon expression. On espère faire un machin institutionnel du style référendum ou du style initiative. Dans le travail que je fais, dans les descriptions avec des habitants, vous voyez l'abîme qu'il faudrait arriver. Le nombre d'étapes qu'il faudrait avoir franchies pour s'intéresser à quelque chose comme la mise de la question de l'environnement dans la Constitution. Je veux dire, c'est vraiment prendre les choses complètement à l'envers.
Parce que ce qu'il faut commencer par faire, c'est par décrire les conditions...
Parce que vous êtes politiste, vous savez bien qu'il n'y a pas... L'État que nous avons, il y a un État qui n'est absolument incapable... d'enregistrer, d'entendre, de comprendre la mutation écologique que représente. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une société industrielle d'abondance dans les limites que nous apprenons du système Terre? Vous imaginez le boulot que ça représente de retravail, de la formation des fonctionnaires, de la définition, l'enseignement à l'ENA, le travail dans les ministères... L'équipement de l'État capable d'entendre ce que disent les Gilets jaunes, c'est ça qui était intéressant. Ni les uns ni les autres ne se comprenaient. Et évidemment, c'est normal, parce que l'État, pour le moment, il n'est pas fait pour absorber l'énorme difficulté de cette mutation. Donc, vouloir résoudre, comme toujours en France, court-circuiter la mise en place de questions politiques par une inscription dans une machine institutionnelle, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, c'est comme... C'est
absurde. C'était l'aboutissement de réflexion, pourtant, le RIC, par exemple, puisqu'on parle de ça, c'est pas quelque chose... Enfin, c'était le résultat d'un processus de personnes qui se sont retrouvées sur des ronds-points, qu'on discutait, qu'on réfléchit ensemble et qu'on aboutit à cette revendication. Elle n'est pas arrivée...
Elle était très répétitive par rapport à l'immense diversité des situations qui auraient été intéressantes d'écrire.
Oui, mais il y a quand même des situations partagées, largement, en l'occurrence précisément des personnes qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est ça le point commun et c'est ça qui fait la politique.
Ça peut pas être une
infinité de situations individuelles, sinon on n'est pas dans de la politique. Ce qui fait de la politique,
ça dépend de la division de la politique. Moi, je crois que la division de la politique, c'est d'arriver à trouver quels sont nos intérêts et à définir des intérêts collectivement. Et ça prend du travail, ça prend du temps. Et si on court-circuite ça en passant aux institutions trop rapidement... On aurait inscrit le référendum et ensuite il faut. Et c'est qui va l'utiliser? Prenons l'exemple de la Constitution. Vous mettez dans la Constitution la phrase sur la biodiversité. Et qui va l'utiliser? Il faut une société. Il faut une société civile pour utiliser tous ces trucs. Elle est où, la société civile?
Mais alors, il faut quoi? Vous proposez quoi? Parce qu'on ne peut pas juste se contenter de décrire nos conditions respectives et d'identifier nos intérêts. Il y a un moment où ensuite...
C'est vous qui dites juste, mais...
Oui, parce qu'il faut une étape ultérieure ensuite d'action, de transformation. Et ça, j'ai l'impression que...
En 89, on a fait la révolution à partir de 60 000 cahiers de doléances. Et ces 60 000 cahiers de doléances incluaient chaque fois une description très précise des injustices qui étaient commises. Et ça a rénové complètement l'appareil d'État pour le...
Mais c'est le point de départ, les cahiers de doléances.
Ben oui, c'est le point de départ. C'est le point de départ qu'on n'a pas. C'est exactement ce qu'on n'a pas. On continue à vivre dans une situation où les classes sociales classiques, la notion de production, d'économie et l'intervention de l'État, disons le sens de l'État classiquement, qui est un État, en gros, de la reconstruction et de la modernisation, un peu plus un État de la globalisation, mais en cas de la France, pas tellement. En tout cas, c'est encore ça. Donc on est encore dans une définition du monde social et du monde juridique et du monde politique qui est celui du milieu du XXe siècle. Donc comment voulez-vous passer d'une société du XXe siècle telle que nous l'avons connue, disons, de modernisation interrompue, nostalgique, finalement, comme on le voit dans le gouvernement actuel, au XXIe siècle, où la question, c'est de faire tenir des sociétés industrielles en compétition avec d'énormes sociétés qui, elles, sont toujours en la phase de modernisation, et de la faire tenir à l'intérieur du confinement qui est propre à l'écologie, c'est-à-dire le fait qu'on est sur Terre, atterrir. Comment voulez-vous faire cette opération-là sans une reprise de la description de l'où on est? Ça s'appelle « où suis-je », c'est pas par hasard. Il faut savoir où on est. Si vous êtes toujours dans le XXe siècle, avec en gros la production, les ressources, l'horizon historique classique et la nature, c'est pas comme ça que vous allez passer dans le XXIe siècle. Donc c'est un changement cosmologique, c'est un changement d'attitude dans le rapport à l'espace, au temps, à la matière et aux gens. Donc aux êtres, la liste des êtres qui n'est pas simplement des êtres sociaux. Comment voulez-vous que cette opération-là se fasse comme ça, c'est-à-dire par des changements institutionnels du genre constitution? Je ne crois pas me tromper complètement sur le...
Et vous prenez depuis tout à l'heure, on a en arrière-plan le RIC, parce que j'ai introduit cette question-là, mais si on prend la question de la taxation des richesses, parce que c'était une autre grande revendication des Gilets jaunes, là, c'est très bien, on fait d'une pierre deux coups. On fait du social et on fait de l'écologique en taxant les plus riches.
J'ai rien contre le fait de taxer les riches, ça, c'est très bien. Mais la question, c'est une des questions qui se posent. Ce n'est pas la question essentielle que nous sommes en train de discuter. La question qui est vraiment intéressante dans cette affaire de retard, disons, cosmologique, comparer le temps qu'il a fallu, je sais pas, vous prenez le grand livre de Thomson sur la conscience ouvrière, ça prend 150 ans pour construire simplement une conscience de classe ajustée à la situation. Brusquement, vous arrivez maintenant au XXe siècle, XXIe siècle, disons, tape dans le XXe comme si on n'était pas préparé. Au fond, on arrive dans cette question... Le 20e tape dans le 20e sans préparation, le Titanic. Arriver à reconstruire l'ensemble des fils qui permettent, au fond, à des classes de se reconnaître comme des classes des lois sociales, ça demande du temps, ça demande un retravail. Or, l'opération de description, ce n'est pas une opération dont on peut se passer, parce que ça veut dire arriver à comprendre ce changement cosmologique individu par individu, tête de pipe par tête de pipe. Et ce n'est pas du tout s'adresser aussitôt à l'État, qui de toute façon est complètement incapable de remplir cette tâche d'écoute, en disant il faut que l'État fasse quelque chose. Il faut reconstruire à partir de la Terre, si vous voulez.
Mais
c'est ça, atterrir.
D'une, on n'a pas forcément le temps de reconstruire parce que l'urgence écologique, elle est devant nous. On n'a pas 150 ans pour essayer de reconstruire une conscience de classe et ensuite la passer dans le droit et dans les institutions.
C'est un argument a fortiori. C'est-à-dire qu'on est dans la même situation. ont été les socialistes au XIXe siècle, mais on n'a pas le temps.
Mais de deux, la solution, en fait, on la connaît déjà, puisque 90%, alors je ne vais pas tomber dans l'opposition des 99% et des 1%, mais si quand même malgré tout, on le sait en fait.
Qu'est-ce qu'on sait?
On sait que y a 1% de la population mondiale qui accapare autant de richesses que la moitié de la population. Donc là, il y a une question d'inégalité sociale, mais que par ailleurs là-dessus, et il se trouve que c'est les mêmes, ces mêmes 1% ont des modes de vie, des modes de consommation et sont à la tête d'entreprises qui produisent et qui polluent en fait 10, 20, 100 fois plus que le reste de la population.
Les inégalités géosociales.
Du coup, vous êtes d'accord avec moi, les camps sont déjà identifiés et définis.
Oui, très largement. Ce qui manque, c'est les combattants.
Oui, c'est ça, d'accord, ok. Mais donc je comprends pas bien pourquoi est-ce qu'il est si important que ça d'en revenir à une étape préliminaire de description, cas
parce que
par cas.
Parce que sur tous
alors
ces sujets.
Alors qu'on sait déjà quels sont les camps en présence.
Oui, mais on n'a pas les forces qui se.
Parlons
qui...
plutôt des mesures, non, non.
On n'a pas. Non, c'est pas des mesures. Ça c'est un point de vue de politique. Il faut tout de suite passer aux mesures. Non, non. Il y a une étape d'avance et d'avoir les forces, les gens, tout oui. simplement, qui se mobilisent affectivement, potentiellement, d'accord. sur ces questions. Parce qu'ils ont été transformés par la mutation cosmologique. Sans ça, vous n'avez pas les forces. Il faut prendre des exemples. Si maintenant, oui. on nous dit, après le Covid, attention, on ne va pas du tout passer très rapidement aux transports généraux, aux touristes, etc., vous avez combien de Français qui diront ben, c'est vrai, vous avez raison, moi, après le Covid, j'ai compris et je ne prends pas l'avion. Vous allez trouver où les forces pour arriver à ces associations? Vous imaginez qu'il va falloir déconstruire point par point les éléments de ce qu'était l'abondance au XXe siècle. Mmh. Vous avez qui en France pour suivre ces affaires-là? Alors que la plupart des mouvements populaires, pour ne pas dire populistes, se préparent à voter sur la question fondamentale pour elles, qui est d'interrompre la migration. Vous voyez l'abîme mmh. entre la question qui se pose d'un côté, c'est-à-dire dans la lutte contre la migration, qui paraît à beaucoup de gens la question la plus essentielle, avec toutes les questions dont on discute ici. Comment vous passez d'une à l'autre? Il va bien falloir retravailler la question. Or, la migration, c'est la question géopolitique essentielle, puisque ça veut dire que les bords formés par la France, le monde où l'on vit, n'est pas le monde dont on vit. Mmh. Et comment vous faites arriver une société comme la société française, qui vit quand même depuis 2 ou 3 siècles sur l'exploitation des autres pour construire son abondance, en disant, attendez, à partir de maintenant, l'abondance, elle va être travaillée avec ceux dont on vit, les migrants. Et enfin, bref, toute la liste, y compris, évidemment, l'air, l'eau, etc. Comment vous voulez faire ce travail de modification cosmologique de ce que représente l'action politique sans un bénéfice d'inventaire qui, il faut quand même le répéter, a été fait d'une façon extraordinairement intéressante dans cette période révolutionnaire que tout le monde vénère avec raison parce qu'elle est très intéressante, qui est 89, 1789. Il y a un travail de reprise. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que ce travail de description qui a été fait pendant les quelques mois de 89 était d'une grande précision. Mmh. C'est-à-dire précisément la capacité à dire, voilà, c'est là où je suis, c'est là dont je dépends, c'est là où sont les injustices, je commence à voir quels sont les alliés et quels sont mes amis. Quand on fait ce travail pour de vrai, c'est-à-dire pas simplement en passant tout de suite aux mesures, comme vous dites, c'est intéressant votre expression de mesure.
Ça, c'est un... Oui, je pense à des mesures politiques.
Oui, oui, parce que ça, c'est typiquement... C'est très bien. Si on avait un État qui était capable d'entendre ce qui se passe, les mesures, ça serait tout à fait compréhensible. Le problème, c'est que l'État, il n'est pas du tout en capacité encore de comprendre, d'entendre ces mesures. Mais le travail de reprise de ce qu'on attend d'une administration ou d'un État, franchement, je ne vois pas comment on peut s'en passer. Mais c'est mon hypothèse. Hein, Je fais un pari sur la situation. C'est comme un tiers-État. C'est tout à fait semblable. Au fond, tout le monde, en même temps, simultanément, a déjà changé d'idée. Mais ce tiers-État n'est pas représenté. Il n'est pas représenté comme tel. Parce que le travail de description qui absorbe cette mutation qui est quand même, pour des gens, pour des modernes, est quand même dur à avaler. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble à ce qu'était le développement, ce qu'était le progrès, ce qu'était l'appartenance, ce qu'était l'identité. D'un siècle à l'autre. Alors, quand même, demander aux gens d'absorber tout ça sans leur laisser, disons, de quoi, de répit,
oui.
C'est très difficile. Et encore une fois, avec la menace massive de domination des Américains, des Russes, pour dire les choses géopolitiques classiques. Il y a un énorme travail politique à faire, là.
Alors, j'entends qu'on est désorienté.
C'est atterrir, hein. C'est ça, atterrir. C'est ça.
Oui.
Atterrir, c'est pas facile.
Oui.
On n'est pas fait pour atterrir. On est fait pour. Continuer le grand rêve du développement.
Oui.
Et comment vous allez dire ça aux gens? Ben non, c'est fini maintenant. C'est ça la trahison. Il ne faut pas oublier que les classes dirigeantes ont trahi. Elles ont trahi précisément parce que cette explosion dans les inégalités, qui n'était quand même pas évidente jusque dans les années 70, disons, et que le résultat de cette trahison, ça a été de dire c'est le populisme, disons. Vous nous avez trahis, vous ne voulez plus nous développer, nous moderniser, vous nous abandonnez avec les 1%, etc. Ben nous, on
C'est quoi que vous appelez le populisme? Parce que c'est aussi un concept qui permet de mettre
beaucoup de
choses...
C'est pas un très bon concept, mais enfin, c'est un très mauvais concept. Mais enfin, en gros, quand même, c'est le sentiment qu'on a été, qu'on a été abandonné. C'est vrai, on a été.
Mais c'est Trump vrai. Ou bien c'est Trump et Sanders le populisme?
Non, Sanders, il se bat de façon classique avec les armes de la gauche classique. Il a tout à fait raison. Mais on peut considérer le moment Trump quand même comme une expression assez claire.
Parce que moi, j'appelle ça l'extrême droite, le Trump.
Pardon ?
J'appelle ça l'extrême droite, Trump, plus que le populisme. Parce que populisme, c'est aussi comme ça qu'on met, par exemple, gens qui se battent pour la démocratie avec des descendants du fascisme.
Je retire l'étiquette populiste. Donc, c'est le sentiment d'avoir été trahi. Alors, ce sentiment, il est juste. La trahison a eu lieu. L'expression
oui, de... et par ailleurs, les premiers... vous parliez des dirigeants politiques. On peut parler des dirigeants économiques aussi, ceux qui ont pris la plupart de ces décisions. Eux, je trouve que vous le dites très bien dans votre livre. Eux, finalement, ils échapperont à la plupart des... Oui. En tout cas, pendant un certain temps, ils échapperont aux dégâts et à la catastrophe. Parce qu'eux, ils peuvent aller se réfugier... sur une autre planète, entre guillemets, en Nouvelle-Zélande, ou en tout cas, ils ont des villas suffisamment en hauteur pour...
Ils sont sur une autre planète.
Oui, oui.
Mais le livre de Lucas, dont vous parliez là sur les inégalités en termes d'usage du CO2, est très frappant, parce que c'est exactement le même problème sur le CO2. Donc, oui. Ce sentiment d'avoir été trahi, je pense qu'il faut, aussi l'articuler, parce que ça veut dire que les alliances de classe géosociales qui vont pouvoir s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la réaction à cette trahison, c'est aussi précisément de dire donc on abandonne, au fond, ce qui a été des idéaux progressistes.
Oui.
Il n'y a plus rien dans le progressisme. Ce n'est pas vrai. Mais le progressiste, c'est le progressiste du côté du terrestre.
Oui.
Vous voyez, le boulot de reconfiguration de tous ces panneaux indicateurs sur la direction progressiste, etc.
Et qu'est-ce que ça veut dire quand... Alors ça, c'était dans Où atterrir, donc c'était il y a 4 ans, mais il y a un passage où vous dites, je l'ai noté, parce qu'il y a des moments où je vous suis à 200%, et il y en a d'autres où tout d'un coup, je fais un pas en arrière assez brutal en vous lisant, et notamment ce pas en arrière, je l'ai fait en lisant ce passage, où vous dites, il va falloir chercher des alliances avec des gens qui, dans l'ancien, selon l'ancien repère, étaient des libéraux, des néolibéraux, voire des réactionnaires.
Bah oui.
Peut-être que vous dites ça de manière un peu provocante, mais c'est qui ces gens-là? Je ne comprends pas en quoi ça peut faire avancer et la cause de l'écologie et la cause de la justice sociale de s'allier à des réactionnaires ou des néolibéraux.
Il ne faut quand même pas oublier que le retour sur Terre, et c'est l'argument de Polanyi, l'argument de Charbonnier, l'argument de beaucoup, c'était pas inévitable que les questions d'appartenance, de terre, de maintien des sols, au sens très pratique aussi, passent à la droite.
Oui. Oui.
Donc, et maintenant, ils sont passés non plus à la droite, ils sont passés à l'extrême droite sous une forme identitaire, qui n'a aucun rapport avec le sol au sens
oui,
écologique.
Oui, mais on n'a pas à s'allier à ces gens-là, on a juste à leur reprendre la question du territoire et de l'attachement.
Des gens qui ça dépend. Ils sont fortement intéressés par la question d'identité avec quelque chose qui est un retour à la terre, mais un très mauvais retour à une très mauvaise terre. On leur parle ou on leur dit « vous êtes des connards »
On leur dit « vous êtes des connards », mais on prend par contre les notions d'attachement et de territoire pour les réinvestir d'une manière qui soit inclusive, égalitaire, libertaire, et pas raciste, homophobe, nationaliste.
D'accord,
surtout.
Mais ça veut dire refaire... oui, je suis d'accord, c'est exactement ce que je dis. ça veut dire aller réintroduire positivement des termes qu'on aurait assimilés
oui.
à des questions réactionnaires, au fond... En un certain sens, toute l'écologie, disons, de prendre en compte des conditions de reproduction de la Terre, sont réactionnaires par rapport à ce qu'a été quand même. Rappelez-vous les textes de Marx sur les ouvriers et sur les paysans français ou sur les gens des forêts, qui sont son premier texte écologique, disons, considéré comme précisément le passé de la lutte sociale.
Oui.
Donc, vous voyez, ça veut dire quand même à chaque fois, il faut se reprendre, revenir sur les réflexes. Pour se dire, attention, ce que vous avez considéré comme des questions réactionnaires, écoutez-les un peu différemment, parce que vous allez peut-être, comme vous le dites d'ailleurs, avoir besoin de ces gens-là. Surtout que la captation par l'illibéralisme qui se fait dans tous les pays en ce moment, elle repose beaucoup sur ces questions aussi. En plus, il y a une écologie d'extrême droite.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous faites avec les écologistes d'extrême droite? Il va falloir aussi dire, attendez, mais ça, c'est pas du tout progressiste. C'est quoi votre critère?
Oui.
Ce n'est pas forcément un critère sur les mœurs. Il va falloir trouver d'autres critères qui sont propres à la façon dont la production est considérée.
Mmh.
Donc, à chaque fois, ça veut dire un affinement des capacités de discernement qui ne peut être fait que dans les luttes concrètes. Hein. Ça veut dire... c'est ça aussi le problème de l'écologie, c'est que c'est que des luttes partielles sur des sujets qui ont toutes des configurations géopolitiques différentes. Parce que la lutte contre le Covid, c'est pas la même chose que sur les questions de rivières, les questions de nourriture, etc. Chaque sujet a une configuration différente. Tout ça, ça demande un énorme travail d'élaboration, de discernement, encore une fois.
Et en même temps, le point commun, quand même, entre toutes ces luttes écologiques...
C'est qu'on quitte la production.
C'est qu'on quitte la production. Vous dites, parce que vous essayez quand même de nous donner une perspective pour... Il y a ce conflit que vous mentionnez entre les extracteurs et les raveurs. Alors, vous dites bien, c'est des termes que je propose, voilà. Vous le faites avec une certaine modestie. Mais c'est ça, le point commun, quand même, de toutes ces luttes écologiques, c'est de chercher à ravauder, à...
Le mot n'est pas formidable, mais il m'a paru le meilleur pour... capter précisément cette variation affective par rapport à l'action, c'est qu'on est quand même dans une perspective de réparation, dans tous les sens du terme, réparation au sens de ce fameux problème de réparer l'esclavage, par exemple, mais aussi réparation dans tous les sens du terme. Quand vous abordez chaque question écologique, vous êtes obligé de vous dire, mais attendez, la terre sur laquelle il s'agit d'atterrir, c'est pas celle dont on était parti, il va falloir donc... On a un certain sens réparé, et là, les ennemis, disons, la clarté du combat entre les extracteurs et les ravaudeurs est un peu plus grande, quand même. Alors, je ne suis pas marié avec le mot ravaudeur, mais c'est pour donner une dimension sur la multiplicité, disons, des lieux de lutte. Mais encore une fois, à chaque fois, il faut discerner, parce que vous parliez de greenwashing au début, il y a aussi des gens qui vont vous dire qu'ils réparent... une forêt parce qu'ils achètent une autre forêt quelque part en détruisant celle-là, etc. Et cela, il faut pouvoir aussi dire, attendez, ça c'est pas de la réparation du tout, ça c'est de la destruction. Et c'est, donc, et à chaque fois, vous allez avoir des alliances à construire entre des enfants de fonctionnaires, des fonctionnaires, des peut-être même quelques capitalistes travaillés par leur mauvaise conscience. Enfin, tout ce qui s'est passé au moment de la Révolution française entre... La très compliquée alliance entre certains aristocrates, certains curés, certains avocats et des classes populaires pour un certain nombre de sujets. Rien de tout ça... Enfin, il n'y a aucune raison que ça soit plus facile aujourd'hui.
Oui.
L'unification des classes géosociales n'a aucune raison d'être plus facile maintenant que ça a été autrefois. Donc il y a un énorme travail... qui est à peu près de... Enfin, sauf qu'il est démultiplié par la question du fait qu'on n'a pas le temps.
Oui, en plus.
Donc, vous imaginez le travail à faire.
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je reviens sur un peu ces histoires de confinement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé en ouvrant « Où suis-je ?» C'est, vous dites, voilà, le confinement qu'on vient de traverser, donc j'imagine que le premier confinement du printemps dernier, il y a déjà un an maintenant, n'est qu'une répétition générale, vous avez un autre terme, une préparation pour quand nous serons à nouveau confinés, dites-vous. Bon...
Oui, c'est pas rigolo.
Là c'est quoi ? C'est une prophétie ? C'est une révolution mentale ? À quoi vous appelez ?
C'est le résumé un peu dramatisé de ce qu'on apprend du système Terre. On n'est pas dans le monde infini du développement. Donc on est confiné.
Confiné dans le système Terre.
Et ça, c'est positif. Le premier, j'avoue que je le supporte de plus en plus mal. Mais on sait en même temps que les pandémies, ça ne dure pas indéfiniment. Il y a toujours un moyen de s'en tirer. En même temps, on a appris quand même du Covid qu'il y en avait d'autres derrière et qu'on était dans un monde du Covid maintenant. On n'est plus dans le monde d'après ressemblera plutôt au genre virus, disons, que ce qu'on imaginait avant. Mais tout ça est une préparation, enfin une répétition générale, peu importe le terme, c'est une façon un peu perverse de profiter de l'expérience du confinement, pour dire, attention, il y a un autre problème qui est derrière ce... D'ailleurs, le confinement médical, est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait maintenant un confinement, cette fois-ci, dans un autre sens ? C'est qu'on est dans la zone critique, on n'est pas dans l'univers infini. On n'est pas dans la nature. Et ça, c'est un vrai problème pour les écologistes, parce qu'ils étaient un peu obstinés et mariés avec cette notion de nature, qui forcément, à cause de son histoire moderne, extériorisante. La nature,
parce qu'il y a la culture d'un côté, la nature de l'autre.
On a beau faire des tas défendre la nature, ça, on ne mobilise pas les gens avec le
Et ça, vous pensez qu'à travers période du confinement et l'année qu'on vient de vivre, un certain nombre de personnes en sont revenues à remettre un peu en question cette vision comme ça, binaire, manichéenne, la culture, la nature, les humains,
non,
les non-humains.
Non, pas
nature,
culture, parce que ça, c'est déjà en quelque sorte, disons, beaucoup travaillé intellectuellement, en tout cas par les... Mais en pratique, ce qui est important, c'est d'introduire un doute sur tous ces trucs. Donc, sur l'inévitabilité du mouvement de progression. Là, quand même, ça fait un an qu'on on a le temps de méditer sur cette affaire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que d'utiliser la notion de confinement, parce que c'est une vraie description cosmologique du fait qu'être sur Terre, il fallait quand même nous rappeler qu'on était sur Terre. Mmh. Au fond, c'est quand même, ça a toujours été la façon dont les écologistes ont parlé du problème. Mais avec le confinement, il y a une dimension de... disons, d'intensité ou de comment est-ce qu'on pourrait dire ça rend beaucoup plus concret. C'est ça que j'ai essayé de construire dans le livre. Les deux livres sont un peu, disons, un peu pervers. Dans le premier, j'utilise la catastrophe de l'élection de Trump pour avancer les affaires. Et là, j'utilise le confinement. Mais c'est ça aussi mon boulot, c'est d'essayer de trouver les occasions de dramatiser au sens positif du terme, de rendre sensible une situation qui reste quand même, après 80 ans de pensée écologique, et même plus si on remonte dans l'avant-guerre, pour la plupart des gens quand même étrangères, loin, disons. C'est ça qui est extraordinaire. Ça reste quand même une question lointaine.
Mais là, on va atterrir ou on va décoller? Parce qu'avec le confinement, justement, là, on commence doucement, même pas tout à fait à en sortir. Et là, il y a quelques semaines, je voyais, il y a cette sonde qu'on a envoyée sur Mars. Là, j'entendais la semaine dernière qu'il y avait le premier projet pour dans quelques années d'un hôtel comme ça, un hôtel dans la stratosphère. Enfin, on a l'impression aussi que ça a décuplé justement la folie et l'envie de s'envoler, de s'évader.
Mais en même temps, ce qui a changé,
ça peut produire des réactions complètement... de dénégation. C'est fort aussi, là, face à la catastrophe, elle est tellement sidérante par moment quand on, quand on commence à l'éprouver à travers l'année qu'on vient de passer, que ça peut aussi renforcer la dénégation et
l'escapisme. Mais ce qui fait que cette planète-là, la fuite de la planète, ne m'inquiète pas trop, c'est en même temps qu'elle est clairement pas pour tout le monde. Oui, donc elle n'est clairement pas civilisatrice. Je veux dire, c'est pas du tout pareil. Quand on nous racontait du temps de Concorde qu'on allait bientôt tous avoir des avions de ce type pour voyager, c'était encore à l'horizon qui était collectif.
Vous pouvez y croire.
Tandis que là, que Elon Musk aille sur Mars, je veux dire, qui est-ce précisément, ça émeut. Ça émeut parce que c'est précisément tellement marginal, ça n'a plus la capacité d'être le levain, disons, d'une civilisation comme c'était de mon temps à moi quand on parlait d'espace. Donc le caractère vraiment là complètement à la fois hyper moderne et complètement biaisé et escapiste est quand même très clair. Ça, c'est une planète que j'appelle la planète Exit. On se tire, mais qui va être enthousiasmé par la planète Exit? Oui, ça enthousiasme. L'intérêt sur Mars me stupéfait parce que mais non, j'admire autant que les autres les magnifiques images, mais ce qui est montré dans les images, parfaitement sinistre. Oui, donc vous avez la double chose. Vous dites, formidable, on va se dire, c'est horrible. Donc c'est pas ça qui va nous tirer d'affaire. De ce point de vue-là, les hypermodernes se trompent. Parce qu'ils espèrent enthousiasmer les gens et les distraire. Oui, ils vont les distraire un peu, mais l'improbabilité d'une civilisation qui irait sur... on se répandrait dans les étoiles est quand même très, 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 très faible. Non, on est confiné. On est à l'intérieur de cette petite zone critique. Voilà, il faut vous y faire, les gars. Qu'est-ce que ça change dans la définition des affects, dans la conception qu'on a du développement, dans l'expansion même physique, comment vous respirez et tout ça. Surtout que si, avec la question que ce qu'on respire, c'est-à-dire l'oxygène... et la température de l'air est devenue politique. Comment vous faites passer tout ça à des gens qui étaient modernes et surtout, comment vous le faites passer encore à deux autres civilisations ou trois autres civilisations, indiennes, chinoises, africaines, etc., qui sont toujours, avec de tas de bonnes raisons, dans la perspective de sortir de la pauvreté. Donc comment vous faites abondance liberté et à l'intérieur de la zone critique confinée. L'ampleur des reprises de traditions intellectuelles, historiques, scientifiques, juridiques, artistiques doit quand même être un peu prise en compte. Ce n'est pas essayer de faire rentrer tout ça dans les anciennes luttes sociales. C'est là où je ne suis pas d'accord tout à fait avec le ton de vos questions en disant mais oui, au fond, on a déjà tout ce qu'il faut. Oui, mais non, ce n'est pas vrai. On n'a pas tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour lutter dans les années 70-80. Oui. Mais maintenant, on est en 2021 même. Voilà.
Votre livre.
Oui. Est-ce que ça ne peut pas justement séduire des jeunes générations, par exemple un projet à Elon Musk?
Oui, les
jeunes gamins, générations, là. Cette fuite en avant, des jeunes générations qui sont très technophiles, très connectées, et donc effectivement cette idée, l'imaginaire de la science-fiction, d'être séduit par, on pourra aller dans l'espace, et que c'est ça qui l'emportera.
Mais, je ne sais pas, la jeune génération c'est aussi Extinction Rébellion.
Oui.
Et c'est aussi... Greta Thunberg. Et la question des générations, elle est compliquée, parce que les générations, c'est aussi l'inversion de l'ordre des générations qui est quand même manifestée par Extinction Rébellion, quand même essentielle pour moi. Les jeunes qui te disent tu n'es pas tu es l'enfant et moi, je suis l'adulte. Oui. Moi, je vois et toi, tu ne vois pas. Mais effectivement, vous avez raison.
Et c'est les jeunes qui ont peur aujourd'hui de disparaître de l'extinction, alors que...
La question de la génération est très importante. Oui. En Europe, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même question en Chine, ou pour ce que j'en connais, ou en Inde. Bon.
Le livre, il s'adresse aux terrestres. Alors, c'est dans le sous-titre, le son du confinement à l'usage des terrestres, mais c'est aussi dans les passages du livre. Alors, c'est une forme très... On n'en a pas parlé, mais c'est une forme très innovante, je trouve, cette espèce de... Vous dites un conte philosophique. Alors, il y a un parallèle qui est dressé avec la nouvelle de Kafka, La Métamorphose, mais il y a aussi des adresses qui sont faites directement au lecteur. Et c'est vrai que quand vous vous adressez aux lectrices et quand vous vous adressez à nous, vous vous adressez à nous en tant que terrestres. Vous auriez pu vous adresser à nous en tant qu'humains et humaines ou la distinction ici, elle a une importance
Les humains, c'était des humains dans la qui étaient en développement, qui étaient en train de s'extraire de la nature ou en contact avec la nature. Enfin, c'est la figure anthropologique de l'humain. C'est pas exactement ce qui m'intéresse. C'est pas dire que je suis anti-humaniste, c'est pas du tout ça. C'est classe, il faut absorber ou pas la question que c'est une mutation cosmologique.
C'est donc, tout l'imaginaire qui va, toute la cosmologie qui va avec les humains, c'est ça dont il
oui,
faut
essayer de... Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses avec les humains. D'abord, il y a l'énorme question que travaillent beaucoup les écoféministes, c'était cet humain, il avait un peu une tendance à être unisexe, disons. Il était dans la nature, donc avec le problème très compliqué de la nature. Il était dans une perspective de développement. Il avait des tas de caractéristiques qui ne sont pas forcément celles qu'on retrouve du côté du terrestre. Et puis terrestre, ça ne désigne pas forcément des humains, du point de vue spécifique. Ça désigne ceux dont les humains vivent ou ceux avec qui les humains vivent. Donc ça fait du
monde.
Par
exemple ? Pardon ? Par exemple, ça peut être ?
L'air, par exemple, l'atmosphère. Qu'est-ce que vous en faites Et l'atmosphère, c'est essentiellement les plantes. Donc, les plantes, et les lichens, et les bactéries, et les virus, d'ailleurs, aussi, qui font quand même une grosse partie. Si vous prenez la masse les humains, c'est une toute petite partie de la masse de la biosphère. Les virus, c'est quand même une grosse partie. Les plantes aussi. Les humains, c'est tout petit. Ensuite, vous prenez un autre diagramme, qui est la quantité de la place des humains modernes, industrialisés, qui ont produit par rapport à la biosphère. Le rapport, c'est égal. C'est-à-dire que les humains, les restes des humains, c'est-à-dire les infrastructures matérielles pèsent autant que la biosphère. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que ces tout petits humains-là, ils ont produit toutes ces choses qui pèsent autant que la biosphère. Et il n'y a pas d'au-delà de la biosphère. On ne va pas sortir de la biosphère. Même si M. Musk va sur Mars, il sera à l'intérieur, relié très intensément à la Terre. Donc voilà, c'est ça le problème. Moi, j'appelle ça un problème cosmologique. Et on peut quand même considérer que ce problème n'était pas celui qui a organisé le rapport des classes autour de la notion de production au XXe siècle. Ce n'est pas que plein de gens ne s'en sont pas préoccupés. Il y a plein de gens, plein de précurseurs. Audier a fait tout un livre sur il y a multitude de gens qui ont pensé autrement. Mais disons, l'axe général de l'intensité la politique n'était pas sur cette question. Maintenant, c'est la question. Et donc, mon argument, si on le simplifie, c'est simplement de dire il faut peut-être se préoccuper de ce changement cosmologique sur tous les plans. Parce que c'est là-dessus que va se jouer les capacités de réaction, y compris à l'intérieur des luttes classiquement politiques, disons. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que les États et les institutions sont disposés à absorber ces transformations? La réponse est quand même, pour le moment, non. Rien que pour une question que vous comprendrez parfaitement en politique, c'est que le rapport à l'occupation du sol, qui est, disons, celui sur lequel l'État-nation a à peu près la capacité de police, et à l'extérieur, celui de l'armée, en termes d'écologie politique, sur chacune des questions qui nous intéressent, n'a rigoureusement aucun sens. Le soja argentin, il est en Bretagne, et les ports bretons sont liés à l'Argentine d'une façon très, très étroite. Donc chaque question, disons, qui rentrait dans la définition de ce qu'un État pouvait comprendre, n'y rentre plus. Donc ça aussi, c'est un énorme problème, parce qu'après tout, l'État-nation, c'est une invention relativement récente. Donc c'est quoi le successeur de l'État-nation? C'est pas une question facile. Non. Qu'est-ce que ça demande de transformation de la société, des sociétés civiles, pour commencer à poser ces questions? Ça fait partie du problème d'ensemble de ce que j'appelle la reprise des ethnogénèses. C'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce que les notions de peuple, de nation, d'État-nation, supranational, tout ça est remis en cause, finalement?
Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à repenser. On arrive doucement vers la fin de cet entretien. Il y a deux questions que je voulais vous poser. La première, c'est sur votre rapport à la religion, enfin votre rapport, pas votre rapport personnel, mais le rapport de votre pensée à la religion. Et notamment, je me demandais si vous accepteriez qu'on dise que vous participez à une forme de christianisme écologique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, il y a un passage dans Où suis-je, je pense, où vous dites que la figure de l'atterrissage résonne avec celle de l'incarnation. Vous faites des mentions assez louangeuses à l'encyclique Laudato Si du pape François. Bon, en même temps, il y a des critiques très sévères adressées aux catholiques à certains moments. Mais voilà, je me demandais quel était le rapport que toutes ces choses-là avaient avec la question religieuse.
C'est un des nombreux enjeux où, de nouveau, toute une série de valeurs qui avaient été organisées, orientées vers le ciel, qui ne sont pas sans rapport avec celles des idéaux révolutionnaires et de l'action et de la flèche de l'histoire moderne. Ça, c'est un énorme sujet, comme vous le savez, savoir si on est sécularisé ou pas sécularisé. Toutes ces questions sont aussi à repenser pour les chrétiens eux-mêmes, pas que les chrétiens d'ailleurs, les musulmans aussi. C'est une question très importante du lien avec les islamistes. Et je m'intéresse aussi, autant que je m'intéresse à la politique au sens, disons, séculière, pour reprendre une catégorie auquel je ne crois pas beaucoup, mais à aider les catholiques et les protestants, d'ailleurs, mais plus les catholiques, parce que c'est ceux avec qui je travaille, de dire, ça veut dire quoi de réorienter toutes ces attitudes, métaphores, mouvements, affects qui allaient du côté, disons, de la sortie de la Terre vers le terrestre. C'est d'autant plus important que là, à l'intérieur des christianismes, il y a des mouvements, en particulier fondamentalistes, qui sont très dangereux du point de vue, cette fois-ci, politique, en théologie politique. En particulier, tous les mouvements pentecôtistes qui imaginent de sortir complètement de la terre, d'exploiter au maximum en attendant que the Lord is coming et de se désintéresser encore plus de la terre. Cette association très trouble entre capitalisme américain en particulier, brésilien aussi,
au Brésil,
et christianisme. C'est des trucs quand même, si on n'élabore pas des anticorps contre ça, là, c'est des vrais ennemis qui sont très dangereux. Et généralement, les anticapitalistes ne s'intéressent pas à ça, parce que ça a l'air de la théologie. Mais là, il y a une lutte interne à la théologie, et même à la spiritualité, en un certain sens, ce qui est drôlement difficile, parce qu'elle forme, elle organise, en Amérique en particulier, une grande partie de l'extrême droite. Donc, ça fait partie des chantiers.
Mais sont... à l'inverse, du coup, il y a des théologies ou il y a des spiritualités qui vous intéressent parce qu'elles peuvent participer d'une reconfiguration de notre...
Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup... Justement, dans la partie... C'est intéressant que vous posiez la question parce que, curieusement, du point, parce qu'ils sont habitués à travailler justement de la tête, et puis ils ont quand même 2000 ans de tradition intellectuelle. Donc finalement, l'énorme travail qui n'est pas du tout influent du point de vue des églises, mais qui est influent du point de vue théologique, de ce qu'on appelle, disons, éco-théologie, n'est pas négligeable. Et c'est très intéressant parce que c'est souvent des questions justement d'affect et d'attitude spirituelle qui sont un des composants, c'est un des composants, il y en a plein d'autres, mais un des composants de l'atterrissage. Parce que c'est là où c'est intéressant de travailler sur tous les plans parce que ce sont des alliés potentiels. À condition de détecter ceux qui sont dans le bon sens et ceux qui ne le sont pas. Il faut encore faire preuve de discernement. Mais on ne fait pas preuve de discernement sans travailler avec eux. Et ça m'intéresse beaucoup.
Et la dernière question que je voulais vous poser, pendant que j'étais en train de vous lire, en fait, on était en pleine polémique. Alors, je suis désolé d'arriver là-dessus, mais quand même, ça m'a frappé. On était en pleine polémique, c'est pas polémique, c'est attaque, dénigrement contre l'université, accusé d'être le vecteur de l'islamo-gauchisme dans la société. Et en fait, voilà, je veux dire, mes journées étaient polluées par les attaques de la ministre de l'Enseignement supérieur contre les universitaires et les sciences sociales en général. Et en même temps, je lisais vos livres et je me disais, c'est génial parce que il y a pas du tout, vous n'abordez pas ces questions-là et ça fait un bien, ça faisait un bien fou aussi. Voilà, il y a toutes ces polémiques, ces discussions récurrentes sur le séparatisme aussi, le communautarisme et tout ça, ça rentre pas dans le, alors que ça pourrait y rentrer parce que vos livres ils touchent comme ça dans toutes les directions. Il y a le féminisme, le racisme, l'écologie, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, mais pas ces questions-là. Donc je me demandais comment vous avez vécu, enfin vous qui êtes donc à la fois anthropologue, sociologue et philosophe, les attaques en fait tout simplement que la communauté académique a vécu dernières semaines.
Moi je suis complètement
islamo-gauchiste.
S'il y avait un pin islamo-gauchiste, je le prendrais.
D'accord.
Mais ma réaction aurait été, mais je suis à la retraite moi, mais ma réaction aurait été de dire, il y a une discipline sur laquelle j'aimerais bien qu'on ait une enquête de l'université et du CNRS, c'est la biochimie de Madame Vidal. C'est une des disciplines les plus corrompues par l'accès des entreprises à la science. Donc, d'accord. On fait une enquête sur les corruptions éventuelles du postcolonialisme dans l'université, mais on le fait aussi sur la biochimie. Et puis, peut-être aussi sur l'économie. Ça serait pas mal de le faire aussi sur l'économie des économistes. Et puis, au fond, peut-être aussi sur d'autres disciplines. Si on commence à attaquer la question de la corruption, de la politique de recherche, ça, c'est une bonne question. Mais à ce moment-là, il faut la faire sur tout l'ensemble. Toute la gamme des disciplines. Et ça serait très intéressant de faire sur les disciplines de Madame Vidal.
Je pense que c'est une très bonne conclusion. On prend la suggestion au sérieux. Merci beaucoup, Bruno Latour.
Merci.